Bonsoir et ravi de vous avoir aussi nombreux pour une analyse rétrospective de l'actualité de cette semaine. La Tribune de la Presse ce vendredi 25 avril 2008 a retenu trois thèmes. Les combats ayant opposé cette semaine au Nord Kivu, les Mai Mai Cobra aux troupes du sein de paix de Laurent Kunda, la visite cette semaine en RDC d'une délégation du Premier ministre belge, enfin la réunion tenue toujours cette semaine à Londres en Angleterre sur la construction du futur barrage hydroélectrique Grand Tinga. Pour en parler, trois journalistes y ont été conviés. Luc Roger Mbala, directeur de publication du journal L'Observateur publié à Kinshasa, Dom Pierrot Ntoukani, correspondant de Raga FM au Bas-Congo, et Francis Kalunga de la radio communautaire Dikoudietou de l'archidiocèse de Kananga au Kasaï occidental. Passons directement à notre premier thème, que sont les affrontements entre le CNDP de Laurent Kunda et les Mai Mai Cobra. Des échanges de tir entre Mai Mai du mouvement Cobra et le CNDP ont été signalés la nuit de mercredi 23 à jeudi 24 avril 2008 dans la région de Kiroche, à une quarantaine de kilomètres de Goma, au sud du territoire de Masisi. Les responsables du mouvement Cobra accusent le CNDP d'avoir organisé cette attaque sur leur position. Mais le CNDP rejette ces accusations. Il faut noter que ces échanges de tirs interviennent un jour seulement après l'engagement des groupes armés et le gouvernement de cesser définitivement les hostilités dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Des précisions sur place à Goma avec notre confrère Sylvestre Kilolo.
Les habitants de Kiroche et Sake, situés à une trentaine de kilomètres de Goma, au sud du territoire de Masisi, disent avoir été réveillés vers 4h du matin par des tirs à l'arme légère. D'après la même source, ces tirs provenaient de Bwambaliro, à 1 km de la localité de Kiroche, mais le calme est revenu sur place après 2 heures de combat. Selon le colonel Tangazo de la brigade Cobra, il s'agissait d'une attaque de leur position par des troupes du CNDP. Il indique que les éléments du CNDP tentaient de piller des chèvres à Bwambaliro, mais ils ont été repoussés, affirme-t-il. Pour sa part, Séraphin Mirindi, porte-parole militaire du CNDP, nie toute implication de son mouvement dans ses échanges de tirs avec les Mai Mai Cobra. D'autre part, des combats ont opposé toute la nuit de mercredi à jeudi des FRDC aux éléments du PARECO et des FDLR dans la localité de Busangia au sud du territoire de Lubero. Des sources administratives sur place indiquent que des FRDC ont brûlé un camp de fortune des éléments PARECO et FDLR. Toujours selon la même source, une accalmie est actuellement observée sur place. Goma, Sylvestre Kilolo, Radio Okapi.
Luc Ojumbala, bonsoir.
Bonsoir Claude.
Vous êtes directeur de publication du journal Observateur publié à Kinshasa. D'abord, votre réaction par rapport à ces événements au Nord Kivu. Est-ce que finalement, avec ces affrontements, le processus de paix de Goma est en danger, surtout que ces combats interviennent un jour seulement après l'engagement de groupes armés et le gouvernement de cesser définitivement les hostilités dans les provinces du Nord et du Kivu?
Bien, j'ai dit d'abord que le processus de paix, disons, les accords conclus à Goma sont en train de voler en éclats parce que depuis l'annonce des engagements pris par les différents protagonistes au mois de janvier dernier, on a comme l'impression que rien ne s'est fait pratiquement sur le terrain. La crise, la méfiance a toujours persisté entre les différentes parties qui ont signé les accords à Goma. On a comme l'impression que les questions de fond. Et moi, je présentais cela déjà au départ. Je me disais, après la conférence de Goma, beaucoup de zones d'ombre restaient encore sans solution. Il y a encore la question des FDLR qui continue à semer la terreur, et qui continue à semer mort et désolation. Il y a la question des réfugiés congolais qui se trouvent à l'extérieur et que Kunda revendique. Il y a également cette ingérence qui donne à Kunda tous ses moyens pour pouvoir. Il y a cette implication cachée du Rwanda qui n'a pas été soulevée. Donc, en fait, on devait s'attendre à ce qu'on arrive à ce genre de situation.
Merci, Luc Rochimbala. Rendons-nous directement au Bas-Congo, où intervient à partir de Matadi, Dom Pierrot Ntoukani. Bonsoir, Dom Pierrot.
Bonsoir.
Vous êtes correspondant de Raga FM au Bas-Congo. Est-ce que vous partagez le même avis que Luc Roger Mbala, c'est-à-dire que rien ne se fait jusqu'à présent après la conférence de Goma et qui encore après cette conférence des zones d'ombre, la question des FDLR, les réfugiés congolais de l'extérieur, que revendique Laurent Kunda et l'ingérence du Rwanda ou le soutien caché du Rwanda à Laurent Kunda, comme vient de le dire Luc Roger Mbala.
Moi, mon point de vue est qu'on n'a pas tout dit à Goma. Et il fallait s'y attendre parce que est-ce que tout le monde a été sincère? Autrement, on ne peut plus revenir à ces coups de guerre qu'on commence pas maintenant. Le problème, moi, je crois qu'il faut aller en profondeur des choses.
C'est-à-dire, c'est depuis la semaine passée que vous parlez aller en profondeur. Vous l'avez dit pour le Bas-Congo et aujourd'hui c'est pour Goma. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Moi, je le présente pour Congo de prendre les choses d'une façon éphémère. On n'entre pas en profondeur des choses. Chaque fois qu'il arrive un problème, on essaie un peu de maquiller, mais on n'entre pas en profondeur des choses. Pourquoi ça doit toujours répéter? Pourquoi le Goma? Parce que si on se rend compte, les Kivus est toujours en guerre depuis très très longtemps. Depuis la guerre de libération, tout commence par Goma. Il faut commencer par savoir pourquoi. Et tout le monde est d'avis que ce qui s'est passé dernièrement avec la conférence de paix, tout le monde n'est pas sincère. Personne n'a été sincère avec lui-même. Même le côté gouvernement, même le côté de Kunda, même le côté de Mai Mai, personne n'a été vraiment convaincu qu'il est bon venu pour faire la paix. Autrement, on n'aurait plus reconnaître, ou plutôt, on n'aurait plus vivre ce que nous avons vivre ici. Notre pays, le gouvernement doit, en toute chose, entrer en profondeur de choses. Il ne peut pas traiter les choses d'une façon éphémère. On a fait de la publicité là-dessus, on a fait venir le monde de toutes parts, on a mobilisé, il faut qu'on a mobilisé. Mais le résultat est là. La paix n'est toujours pas installée dans le Kivu. Donc, il faudrait qu'au cours de cette table ronde, au cours de cette rencontre, que nous, Congolais, nous puissions nous dire la vérité.
De quelle rencontre voulez-vous parler?
Mais si, il y a d'autres rencontres qui peuvent être, parce que je crois que maintenant, tout le monde est convaincu que la paix n'est pas installée au Kivu. Est-ce qu'on va laisser cette situation s'appeler? Peut-être qu'un jour ou l'autre, ils vont chercher encore à faire des pourparlers comme ils veulent. Mais il faudrait cette fois-là, il faut encore reconnaître les choses, qu'on se parle en face, qu'on se dise les vérités. S'il y a le calendrier caché, qu'on le dise exactement.
Merci. Merci beaucoup, Don Pierrot Toukani. Francis Kalunga, bonsoir.
Bonsoir, Claude Kanga.
Vous êtes journaliste au sein de la radio communautaire Dikou-Dietou de l'archidiocèse de Kananga, au Kasaï occidental. Don Pierrot estime qu'on n'a pas pris les choses, on n'a pas traité les choses en profondeur pendant la conférence de Goma. Et il s'interroge aussi pourquoi toutes les guerres pratiquement commencent à Goma, au Nord Kivu, et que cette fois-ci, s'il y a encore de nouvelles rencontres, il faudrait vraiment se dire les choses telles quelles. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous faites la même lecture des choses?
Tout à fait, Claude. Je crois que c'est comme une pièce de théâtre. L'auteur de la pièce ne monte pas sur scène autant de fois qu'on a été distrait. Ça, c'est mon point de vue, on a été distrait. La conférence sous la paix à Goma, précisément dans les deux Kivu, n'a été que des signatures sur papier. Les spectateurs sont allés signer au nom des acteurs qui devaient eux-mêmes signer. Il y a eu des préalables, nous savons que cette conférence était terminée en queue de poisson. Il y a eu autant de fois de tentatives de faire éclater cette conférence. Évidemment, il y a eu des mouvements comme ça pendant que certains étaient dans la salle pour négocier la paix. Les autres étaient sur le terrain.
Francis, excusez-moi, quand vous dites que les spectateurs sont à la conférence de Goma, les spectateurs sont allés signer à la place des acteurs. Qui est spectateur et qui est acteur, d'après vous?
Ou les acteurs, ce sont eux qui font la guerre. Et parmi ceux qui font la guerre et ceux qui vont assister à la guerre ou à des massacres des innocents, il y en a qui savent pourquoi les autres attaquent et il y en a qui savent pourquoi on ne peut pas signer la guerre par ceux qui ne l'ont pas entamé ou ceux qui ne l'entretiennent pas. Mais alors, si ceux qui entretiennent la guerre sont tranquilles, on les laisse de côté. On prend ceux qui ne savent même pas pourquoi les autres se battent contre leurs frères ou contre les voisins. Je trouve pas mal combien on peut réussir à conclure un pacte de paix avec ceux qui n'ont aucun mécanisme pour pouvoir réaliser. Donc, pour répondre à cette question, il y a du côté congolais. Et parfois, un excès de zèle, je me permets parfois de dire des choses comme ça, un excès de zèle, excès de confiance. Parce que les gens qui sont soutenus, il y a une main noire qui travaille de l'autre côté-là. Mais cette main noire, est-ce que réellement on a été à l'identifier, à savoir pourquoi ils continuent à soutenir sous coulisses et ceux qui aujourd'hui se réclament d'un côté congolais et qui continuent à tuer les Congolais, continuent à brutaliser la paix, la petite démocratie, la très jeune démocratie qui n'a pas encore pu s'installer dans notre pays. On est en train de bousculer par-ci, par-là. Les chefs de santé, on les menace. Kabila souffre parce que ceux qui l'entourent maintenant, ou ceux qui hier ont promis de faire la paix avec lui pour l'aider à reconstruire ce Congo, aujourd'hui, pendant qu'ils sont en train de faire la guerre, les cinq chantiers, je me demande si ça va être fait. Donc, il y a dans l'autre côté là, ou de l'autre côté, si tu permets, Claude, il y a des gens qui savent pourquoi ils se battent de ce côté. Et ces jours-là, non, ce n'est que pour faire plaisir à ceux qui voudraient bien qu'on appose des signatures sur un document pour parler de la paix. Mais la paix elle-même devait commencer, ou la conférence sur la paix devait commencer à l'issue de ces signatures que chacun avait déposé sur le papier. Donc, c'était une certaine pièce de théâtre qui était jouée, mais le dénouement de la pièce n'a pas été dévoilé. Qu'on nous dise exactement pourquoi ça doit toujours continuer, et ça commence toujours par Goma, et combien de fois, si c'est Laurent Kunda, qu'est-ce qu'on doit encore attendre?
Merci beaucoup, Francis Kalunga. Bon, Francis Kalunga estime que c'est une pièce de théâtre qui se joue à Goma. Il y a eu des combats cette semaine, toujours au Nord Kivu, cette fois-ci entre les FRDC d'un côté, et de l'autre côté, il y a le mouvement politico-militaire PARECO, allié au FDLR Hutu rwandais. Luc Roger, est-ce que vous pouvez réagir en une minute par rapport, finalement, il y a des alliances qui se font et se défont dans cette partie de la République. Hier, c'était le PARECO, le mouvement PARECO qui se battait contre les mêmes FDLR. Aujourd'hui, ce sont les mêmes PARECO qui s'allient à leurs anciens ennemis FDLR et se battent contre les FDLR.
Oui, tout à fait. Le Kivu, c'est vraiment une plaie ouverte sur le Congo. Vous savez, tous ces mouvements qui s'allient, qui font des alliances qui se font, qui se défont. En fait, derrière tous ces mouvements, il y a toujours une main cachée qui veulent contrôler les ressources naturelles du Congo. Et dans tout cela, il faut voir le manque de volonté politique, le manque de volonté politique des différents acteurs. Moi, je suis écœuré quand on parle de la conférence de Goma. Déjà les prémices de cette conférence étaient déjà mauvaises.
C'est-à-dire
que quand on accepte d'aller négocier avec Kunda Batware, alors qu'on a lancé déjà un appel, un mandat d'arrêt contre ce monsieur.
Mais un mandat d'arrêt contesté par certains. Hein,
contesté par certains, pourquoi? Justement parce qu'il y a des intérêts cachés. Le gouvernement est allé à Goma. Quel était l'agenda du gouvernement? On ne l'a jamais présenté. Le gouvernement est allé à Goma sans un agenda. Moi, je vis des gens se bousculer pour aller à Goma. Certainement pour avoir le perdième, mais en fait, quelle était leur présence sur place, sur terrain? On devait le savoir. Il y avait des problèmes de fond. M. Kunda est venu avec son équipe, lui-même n'était pas là. Il s'est fait représenter. Mais entre-temps, on était en train de négocier à Goma, il y avait des affrontements. Ça, c'est quelque chose qui devait nous interpeller.
Finalement, que faire pour mettre fin à cette spirale
La question du Kivu, c'est une question à la fois congolaise et internationale. C'est vrai, le Kunda, s'ils se battent derrière eux, il y a des gens qui leur donnent les moyens pour pouvoir mener ce combat-là. Donc, il faut gérer cette question sur le plan local, c'est vrai, mais également intégrer les pays environnants. J'aurais voulu après la réunion de Goma, après la conférence de Goma, qu'il y ait également une conférence sur les Grands Lacs pour voir comment les pays africains, comment les pays environnants pouvaient jouer un rôle déterminant pour qu'on arrive par exemple à neutraliser les Interahamwe qui sèment la terreur.
Il y a déjà eu une conférence internationale sur les Grands Lacs.
Qui n'a jamais porté de fruits.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excusez-moi, je vous interromps parce qu'on est presque à la fin du premier temps. Donc, Pierrot Ntoukani, en 30 secondes, s'il vous plaît. Finalement, que faire pour trouver une paix durable dans cette partie du pays que le Nord Kivu? Il faudrait gérer ce problème de façon à la fois congolaise ou locale, mais aussi de façon régionale en associant les pays voisins. En 30 secondes, s'il vous plaît.
Oui, c'est en façon régionale parce qu'il faut savoir la cause, une des causes de ces dépenses au Kivu, c'est la présence de nos amis rwandais. Mais il faut savoir ils sont venus comment. La communauté internationale a été à la base d'arriver des Rwandais chez nous. Donc il faudrait que la communauté internationale nous aide aussi à faire partir les Rwandais. C'est les Rwandais qui quittent le Kivu. Donc je vois le groupe qui sont là-bas, qui sont à l'intérieur maintenant. Il faut qu'ils quittent les provinces du Kivu de Nord Kivu.
Vous parlez des FDLR.
Oui, des quittes. Ils sont arrivés. C'est la communauté internationale, si nous savons encore ce qui s'est passé dans le temps, c'est la communauté internationale qui est à la base de l'arrivée ici, du conseil direct. Il faudrait que la communauté internationale nous aide à faire répartir ces gens de notre secteur national.
Merci beaucoup, Don Piero Ntoukani. Je retiens que pour vous, la solution, c'est que la communauté internationale aide la RDC à faire partir les miliciens Hutus rwandais qui sont dans les forêts de l'est du pays. Quant à vous, Francis Kalunga, qu'est-ce que vous proposez comme solution à ce problème?
Merci beaucoup, Claude. Le gouvernement congolais et la République démocratique du Congo doivent montrer sa position. Il ne faut pas faire comme les Troyens dans l'histoire des fondations de Rome, où les Grecs, les Troyens se battent à un moment, on accepte un cadeau d'un cheval de Troie connu dans l'histoire, alors qu'il a enlevé dans son sein ou dans son ventre des militaires. Justement, je suis en train de dire, d'un côté, un mandat d'arrêt, tout ce qu'on a pu avoir comme déclaration, et pour quelqu'un qui s'est préparé déjà, sachant qu'il y a affaire à des ennemis, demain on veut faire la paix et brusquement avec ces messieurs-là qui... par le temps qui courait, a brusqué la conférence qui n'a pas pu aboutir. Cette conférence sur la paix dans les deux pays n'avait pas réussi. Je vous dis même que des sources sûres, indépendantes aussi, on a appris que cette conférence a été signée, la conclusion a été signée dans des chambres des hôtels. Je voudrais que le gouvernement...
Non. J'étais présent à Goma, il y a eu des négociations qui se tenaient parfois en dehors du lieu de la conférence quand il y avait des problèmes, des négociations qui étaient menées par le bureau de cette conférence, mais la signature se fait au lieu où se déroulait la conférence. J'étais présent moi-même à Goma.
Merci Claude pour la précision, mais tout de même que notre gouvernement prenne ses responsabilités à un certain moment, il faut certaines solutions. Je dirais même violente, il ne faut pas hésiter de le dire. On peut aussi résoudre une certaine violence par une certaine violence dosée. Il ne faut pas tout parler.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Résoudre la violence par la violence. Est-ce que ça peut produire cette
chose? Il attaque pas par les armes, il n'a pas fait appel au papier. Lui, quand il veut aller signer ce papier, lui ne se retrouve pas là-bas. Il a son langage qu'on ne lui répond pas le nom de langage.
Et qu'est-ce qu'il faut faire, d'après vous, en 30 secondes, s'il vous plaît? Pour réinstaurer la paix au Kivu.
Donc, pas négocier avec celui qui ne veut pas de négociation. Il faut juste réagir selon les mêmes moyens utilisés pour lui, pour nous attaquer, pour l'attaque.
Merci beaucoup. Cela n'engage que vous-même. Notre deuxième thème, c'est la visite cette semaine en RDC d'une délégation de trois ministres belges, celui des Affaires étrangères Karel De Gucht, de la Défense Peter De Crème et celui de la coopération Charles Michel. Il faut noter que cette visite a suscité une tension entre les deux pays, c'est-à-dire la RDC et la Belgique, suite à certains propos tenus par le ministre belge des Affaires étrangères pendant cette tournée. La lutte contre la corruption en RDC, les progrès sont insuffisants, juge la Belgique. C'est ainsi que le premier ministre belge, Yves Leterme, a résumé le sentiment de son gouvernement hier jeudi 24 avril 2008 devant la Chambre des députés belges. Certains ministres belges, en séjour cette semaine à Kinshasa, ont déclaré prioriser leur action en RDC sur la lutte justement contre la corruption. Selon Karel De Gucht, ministre belge des Affaires étrangères, cela signifie qu'il faut s'attaquer aux privilèges fabuleux de certains. Le président congolais Joseph Kabila n'a pas tardé à réagir lui-même aux différentes délégations des ministres belges dans une interview au journal belge Le Soir. Joseph Kabila estime que c'est le début d'un incident ou une provocation. Notre confrère Georges Tomjouba s'y est penché.
Je refuse qu'une sorte de tutelle continue à s'exercer sur nous, déclare Joseph Kabila. Il ajoute que la prochaine fois, il y aura un incident. L'un des points de mésentente, selon Joseph Kabila, c'est la nomination d'un rapporteur sur les droits de l'homme. Réclamé par plusieurs ONG internationales et congolaises, la Belgique insisterait sur ces sujets. Bruxelles, qui estime également que sans avancer dans la lutte contre la corruption, le Congo ne surmontera jamais ses difficultés. C'est la dernière fois que j'ai accepté de recevoir une délégation porteuse d'un tel message, déclare Joseph Kabila. Le président congolais juge le patron de la diplomatie belge d'être arrogant. Il ajoute « Je n'accepterai jamais de leçons de la part de qui que ce soit, qu'il s'agisse du ministre des Affaires étrangères belge ou chinois. » Alors, chinois, le contrat Chine-RDC serait-il au centre des refroidissements entre Bruxelles et Kinshasa? C'est important que ces contrats qui seront finalisés dans les jours à venir soient équilibrés à l'avantage du peuple congolais, a déclaré de son côté hier à Lubumbashi Charles Michel, ministre belge de la coopération. Pour le président congolais, la Belgique doit se décider si elle souhaite entretenir des partenariats adultes avec un État souverain ou des relations de maître à esclave. Mais Joseph Kabila ajoute que la Belgique reste un pays ami et frère. La RDC reste un pays souverain avec lequel la Belgique entend poursuivre son partenariat, déclare de son côté le Premier ministre belge Yves Le Terme, estimant que leur relation permet à chacun d'employer la franchise.
Merci beaucoup, Georges Kamoutchouba. Je me tourne une fois de plus vers vous, Luc Roger Mbala. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du journal L'Observateur, publié ici à Kinshasa. Et j'ai d'ailleurs sous mes yeux quelques journaux parus à Kinshasa. J'ai le palmarès de ce vendredi 25 avril 2008. On y lit à la une, dans une interview canon au journal Le Soir, Joseph Kabila répond à Karel De Gucht, plus de relations de maître à esclave. Et j'ai également la une du journal L'Avenir, paraissant ici à Kinshasa, donc L'Avenir de ce vendredi. À la une, on y lit également au sujet de la visite de la délégation belge. Joseph Kabila est formel, la RDC n'est plus une colonie belge. Et en sous-titre, si les Belges veulent un incident, ils seront servis. Et j'ai également sous mes yeux le journal Le Phare du mercredi 23 avril, et à la une, il y a ceci, le ministre belge en tue une discussion approfondie avec le président de la République, comme sur titre, et à la une, donc, le message fort de Bruxelles. Le projet Mbala, quelle lecture faites-vous de cette tournée dans un contexte de tension entre les deux pays?
Bon, j'ai dit que c'est toujours ces relations en dents de scie entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Je me rappelle, il y a quelques temps, il y avait également ces différends entre Mobutu et Martens. Et aujourd'hui, c'est un peu... bon, moi, je ne trouve pas ça que c'est une crise. Je crois que c'est un saut d'humeur, simplement, entre le président Kabila et Karel De Gucht, qui se connaissent depuis un certain temps. Et Karel De Gucht a toujours un franc parler. Et moi, je me rappelle, chaque fois quand il vient ici, j'ai eu l'occasion de suivre Karel De Gucht dans ses tournées, ces différentes tournées en Afrique. Il y a toujours des thèmes qui reviennent dans son discours. Il y a l'amélioration de la gestion, la transparence, la lutte contre la corruption, la sécurité juridique et la promotion de l'état des droits. Et ça, ce sont des bases, ce sont des fondements par lesquels la Belgique insiste pour que la République démocratique du Congo prenne sa vitesse de croisière.
Mais certains temps également sont décriés par les journaux chinois, aussi bien par des journalistes belges. J'ai par exemple sous mes yeux un article de Colette Boitman paru le 22 avril, et je lis un paragraphe où Colette Boitman dit exactement ceci. De Gucht se mit à lire une note interne extrêmement virulente, rédigé par son cabinet et qui n'avait pas fait l'unanimité au sein de la délégation belge, le ton fut jugé arrogant par les Congolais et surpris même ses deux collègues belges. Au départ de la Belgique, les trois ministres s'étaient pourtant mis d'accord sur les textes d'une allocution très équilibrée. mais celle-ci fut prononcée par M. de Gout au cours d'une réception donnée à l'ambassade de Belgique, réception boudée par beaucoup d'officiels congolais, y compris le ministre de la Défense tchèque. Donc, au sein même de la délégation belge, apparemment, le texte qui a été lu par de Gout devant le président de la République n'avait pas fait l'unanimité.
Je suis d'accord. J'ai même beaucoup apprécié la réaction du chef de l'État quand il disait que les discours que Carole Davis a tenus, il ne pouvait pas les tenir devant les dirigeants angolais ou soudanais. Eh bien, pourquoi ? Moi, je crois que nous devons être responsables. Quand nous pratiquons toujours la politique de la main tendue, croyez-moi, la personne qui donne ira toujours à donner des injections. Et ça, c'est la faiblesse de notre classe politique, justement. Nous devons voir comment nous pouvons nous emparer de cette politique de la main tendue. Une fois, j'entendais un homme politique des Belges parler à un acteur politique congolais. Il lui disait ceci, mais vous savez, quand l'argent du contribuable belge arrive au Congo et que cet argent nous retourne dans les comptes de certains acteurs politiques à l'étranger,
ça veut dire détourner.
Détourner pratiquement. C'est ça le grand problème. Nous devons être sérieux. Où nous allons, nous négocions d'État, d'égal à égal avec nos partenaires, nous renonçons à cette politique de la main tendue. Parce que la personne qui donne son argent, croyez-moi que même si vous donnez l'argent à votre enfant pour qu'il aille à l'école, s'il ne va pas à l'école, vous allez lui demander des comptes. C'est ça, en fait, les relations entre la RDC et la Belgique. Nous devons également jouer le rôle de... Nous devons nous considérer comme des vrais partenaires et non comme des demandeurs éternels.
Merci Luc Roger Mbala. Donc Pierrot Toukani, comment interprétez-vous au niveau du Bas-Congo cette tension entre les deux pays suite au propos de Karel de Gout? Est-ce que le fond était réel, mais c'est peut-être la formule utilisée ou le moyen de dire ce qu'ils avaient à dire au chef de l'État congolais qui n'était pas bon?
Moi je crois que le fond de la plupart de nos amis belges, il y a une petite nostalgie. Ils ont difficile à voir ce Congo indépendant, à voir les problèmes des problèmes et à régler. Une, par exemple, je sais que ça fait jasper, ça fait du mal à ceux qui ont une puissance, moyenne qu'elle soit, la Chine du crédit, qui voudrait tendre la main à la RDC et qui voudrait aider la RDC à sortir
donc, excusez-moi, si je vous ai bien compris, Don Pierrot Toukani, vous voulez dire que c'est le dossier des contrats entre la RDC et la Chine qui empoisonne les relations entre la Belgique et la RDC?
J'essaie d'adresser de me demander si c'est pas ça, parce que nos amis belges, ils ont toujours difficile à lâcher complètement ce Congo. Vous savez combien ils ont profité de ce Congo? Combien ce Congo a construit la Belgique? Les gens ne le savent peut-être pas. La Belgique est sortie de la guerre mondiale sans dette à cause du Congo. Et ils ont été tristes, messieurs, de voir ce Congo voler vers d'autres cieux. C'est là que c'est difficile. Le langage du premier ministre belge, le président du ministre des Affaires étrangères de la Belgique, c'est pas pour la première fois qu'il tient un pareil langage. C'est intéressant de parfois, mais puis, c'est de la neige, hein, je ne peux pas le tenir en Angola, je ne peux pas le tenir dans d'autres pays d'Afrique. Il les tient chez nous parce qu'ils se disent qu'ils étaient maîtres chez nous. Peut-être qu'ils ont vu les époques. Le Congo est devenu réellement indépendant. En faisant avec nous, ils doivent nous prendre au même pied d'égalité que la Belgique. Nous sommes un pays indépendant, bien sûr. Roger nous vient de dire un problème très important. Nous avons trop la main, nous demandons un peu trop aussi. Hein? Celui qui demande est à la merci de celui qui donne. C'est ça le problème. Et il faudrait que nos hommes politiques puissent aussi agir en politicien. Pour qu'ils ne donnent pas l'occasion aux Belges ou aux autres de nous critiquer.
Merci.
Dans notre pays.
Merci beaucoup, Don Pierrot Toukani. Rendons-nous maintenant au Kasaï occidental, plus précisément à Kananga, où intervient Francis Kalunga de la radio communautaire Diku Dieto de l'archidiocèse de Kananga au Kasaï occidental. Comment on a, disons, à Kananga, on interprète ou on interprète ces événements, c'est-à-dire la tension, cette sorte de tension entre la Belgique et la RDC suite à la visite, disons, une délégation ministérielle belge en RDC.
Merci beaucoup, Claude. Tu te rappelles bien le contentieux des Veillerois de l'époque, du feu marchand et de tous ces sociétaux. Et nous avons eu le temps de passer aux élections que nous avons appelées de toutes nos forces, disant élections libres, démocratiques et transparentes. Je ne sais pas si, à mon sens, il conviendrait qu'on redéfinisse clairement les relations qui existent entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Le Congo, après élection, nous avons un président que le peuple congolais s'est choisi. Je ne vais pas entrer en détail à ce sujet-là, mais c'est vrai. Est-ce que la Belgique aujourd'hui, le ministre belge des Affaires étrangères, c'est pas le ministre congolais des Affaires étrangères, est-ce qu'il vient ici contrôler le président de la République démocratique du Congo comme peut-être un gouverneur d'une des provinces de la Belgique ou quoi? J'estime quand même qu'entre les deux États, il y a un peu de sérieux vis-à-vis des juges comme des autres. Le président de la République, ici chez nous, ce n'est pas de la même manière que notre ministre des Affaires étrangères peut parler au chef de l'État, en fait, au président d'une autre république du monde. Donc, j'espère que quand les ministres viennent chez nous, ils devront prendre aussi en considération et pas rester pour cette autorité, le chef de l'État de notre pays. C'est vrai que quelque part là-bas, j'encourage pas la corruption. Si corruption il y a, mais ce n'est peut-être pas sous ce langage-là qu'on pouvait le dire, engager toute une nation, mais voir que ce qui est négatif, et alors que la Belgique n'a pas aidé la République démocratique du Congo à se développer, si réellement la Belgique entend aider la RDC à se développer.
Mais la Belgique a quand même plaidé pendant la guerre, la Belgique a plaidé, avait plaidé la cause de la RDC auprès notamment de l'Union européenne. Et est-ce qu'on ne peut pas dire que les efforts de la Belgique ont quelque part payé pour que l'Union européenne finance, par exemple, le processus électoral en République démocratique du Congo? Est-ce que ce n'est pas aussi un problème d'ingratitude de la RDC vis-à-vis de la Belgique?
Claude, mais si on parlait en termes économiques, qui va à l'autre? Parce que la guerre mondiale et la guerre de la RDC, vous trouvez quelle a été la guerre la plus longue et qui serait la plus coûteuse des deux? Et qui doit à l'autre, en principe, c'est la Belgique qui nous doit, s'il faut vraiment rester sincère. Donc, si c'est un règlement de compte en ce sens, on réclame ce qu'on nous a donné pendant la période de la guerre pour qu'on en finisse et nous amener aux élections. Évidemment, il y a des procédures, il faut les respecter comme ça. Il y a même des contrats ou même des conventions qui ont été signées entre les deux États. Qu'on voit comment ça a été défini et qu'on essaie de régler. Mais en tout cas, le Congo reste un État souverain et je crois que notre président mérite deux égards. Il n'y a pas deux voix pour exprimer cela. Nous restons la République démocratique du Congo avec les Congolais et la Belgique vient comme ami dans le partenariat et expliquer ce qu'il y a à faire et ce que nous pouvons prendre ou rejeter. Ça dépend de notre manière de voir si la Belgique nous aide ou ne peut pas nous aider à nous développer. Sinon, on aurait pu attendre tout de la Belgique et n'a pas pu le faire pendant que le Congo était sa colonie. Je ne pense pas qu'elle a l'intention de bien le faire. Évidemment, c'est très fort, mais c'est ça la vérité. Il faut qu'on la dénonce.
Excusez-moi, est-ce qu'on peut s'attendre à des relations beaucoup plus tumultueuses entre les deux pays ou c'est des épisodes passagers dans les relations entre les deux pays?
De toute manière, ce n'est pas ça notre souhait de voir les deux pays vivre en chien et en chat, mais de penser que quelque part, on va s'adresser aux hommes et que ces hommes ont leur philosophie, ils ont peut-être d'ambition. Et vous savez que la Belgique a déjà franchi plusieurs étapes, mais qu'on n'est pas la misère que nous sommes en train de connaître maintenant. Nous ramener toujours les petits mots là, les mêmes mots, corruption, et ainsi de suite. C'est comme si, quoi, quelque part, il y avait un modèle, mais je ne pense pas que la Belgique a tout réussi, et partout où elle est intervenue. Et que, sur place même, les Congolais ou d'autres nations qui ont leurs représentants de la diaspora en Belgique, mais ils ne vivent pas que la rose là-bas. Il y a parfois des moments les plus difficiles pour les Belges aussi qui vivent ailleurs.
Merci beaucoup. Luc Roger, on va terminer par vous ces dossiers, mais les mots que pointe notamment le ministre belge des Affaires étrangères, est-ce qu'ils sont vrais ou faux? A-t-il le droit de le dire aux autorités congolaises?
Bon, je crois que c'est vrai, Karel Bégueta a son franc-parler. Hein, c'est comme a dit Don Pierrot, et Francie, hein, et quand on s'adresse quand même à un chef de l'État, il faut un minimum de langage diplomatique pour pouvoir faire ce genre de propos. Mais au-delà de tout ça, quand on regarde, on analyse les questions de fond, c'est vrai qu'il y a un sérieux problème qui se pose. Et le président,
il a dénoncé notamment
la corruption. Le président de la République nous a annoncé que bientôt on va arrêter les gens qui sont qui auront la détournée de deniers publics. Mais jusque-là, les présidents, on n'a jamais vu de propos. Ce sont des choses justement sur lesquelles il faut également qu'on pose, qu'on voit le chef de l'État à l'œuvre. Il a le seul chantier qu'il a coordonné, le démarrage du seul chantier doit s'accompagner également de mesures d'encadrement. On doit également avoir des sanctions à l'endroit des personnes qui se sont livrées à des détournements de fonds.
Karel De Gaulle dit par exemple que ceci signifie s'attaquer aux privilèges fabuleux de certains. Il faut s'attendre à une farouche résistance de tous ceux qui n'hésitent pas à sacrifier le bien-être de la population pour leur enrichissement personnel. Ça, c'est Karel De Gaulle qui tient ce propos.
Mais absolument, parce qu'il y a des gens qui empêchent les cinq chantiers de la République de se réaliser. Oh, et ça, c'est un problème. Il faut s'attaquer au problème de fond, qui est la corruption, le détournement et même la concussion, qui, ma foi, n'a pas encore quitté la scène politique congolaise.
Merci Luc Roger. Le troisième thème retenu dans cette tribune de la presse, la réunion tenue lundi et mardi à Londres, en Angleterre, sur le projet du futur barrage hydroélectrique appelé Gansinga. Ce barrage d'une puissance estimée à 300 000 gigawatts par an pourra fournir de l'électricité à plusieurs pays d'Afrique d'ici 2020, tels que l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, voire Israël. C'est ce que nous explique Gérald Doucet, secrétaire général du Conseil mondial de l'énergie, à l'origine de cette réunion, qui a réuni, excusez-moi la tautologie, les plus grandes banques du monde, ainsi que des entreprises ayant déjà réalisé de grands barrages hydroélectriques à travers le monde. Monsieur Gérald Doucet est au micro de notre confrère René Capitain.
La question principale est d'avancer les projets Kaminga 3 au profit des citoyens du Congo, Kinshasa bien sûr, Katanga, peut-être des nouvelles usines de BHP et autres, mais si il reste de l'électricité qui n'est pas utilisée, exportée vers les pays voisins qui sont quand même partenaires avec SNEL dans le projet Inga 3. Pendant ce workshop à Londres, on a invité les gens de Itaipu au Brésil, les gens experts sur le grand projet de la rivière Mekong dans le Laos et de James Bay au Québec, mais aussi les Trois Gorges en Chine. Dans le passé, pour ces grands projets, on s'est trompé sur les problèmes sociaux, sur les problèmes de l'environnement et aussi sur le problème des citoyens de la région proprement dit. Il faut faire en sorte qu'il y ait un meilleur accès à l'électricité produite pour les citoyens dans la région de la production.
Rendons-nous directement à Matadi, au Bas-Congo, justement où ce barrage doit en principe être érigé, c'est-à-dire au Bas-Congo, dans le site d'Inga. Donc allons rejoindre Don Piero Ntoukani, puisque vous êtes sur place au Bas-Congo. Je rappelle que vous êtes correspondant de Raga FM dans cette province. Ce projet doit coûter à peu près 80 milliards de dollars américains. Votre réaction, vous qui êtes sur place au Bas-Congo?
Oui, c'est bien beau tout cela. Réhabiliter Inga, faire surpouvoir Inga, exporter le pétrole d'Inga, c'est bien beau. Mais il faudrait d'abord commencer par réhabiliter ce qui existe pour mettre fin au délestage. Les gens ne comprendront pas qu'on va faire le grand Inga bientôt, on va exporter le courant même en Égypte, même en Israël et partout, alors qu'ici, dans notre pays, on est incapable de donner l'électricité à tout le monde.
Moi, j'ai vu au Bas-Congo des gens qui voyaient des câbles de la semaine passée à certains villages, mais eux-mêmes qui sont à quelques kilomètres, seulement quelques kilomètres, mais qui n'ont pas d'électricité. Et pourtant, ils voient ces pylônes amener du courant jusqu'au Katanga.
Mais c'est là que c'est le vrai problème. Et ici, au Bas-Congo, on voudrait que ces courants aillent partout, même au ciel. Mais il faut commencer d'abord par changer aux habitants de cette province. Car vous savez, le courant de l'électricité, c'est le tiers du développement. Quand l'électricité est là, on peut facilement développer le pays. À côté d'Inga, les villages sont près d'Inga, il n'y a pas d'électricité. Et c'est un problème de l'étage. Et quand on apprend qu'on va donner de l'argent pour le fameux Inga, le grand Inga, parfaitement d'accord. Mais qu'on commence d'abord par. Et ensuite, notre problème, c'est que c'est l'entretien. Le Congolais est faible. Le Congolais ne connaît pas l'entretien. Ce qui existe déjà, si vous arrivez à Inga maintenant, si on n'a pas encore de problème de panne, mais c'est parce que l'entretien n'a pas suivi. Le Congolais est incapable d'entretenir les choses.
Nous vous avons compris, donc, c'est, vous dites en résumé qu'il faudrait non seulement penser à exporter du courant, mais donner également du courant à ceux qui sont dans les lieux environnants de ce barrage. Et nous allons aussi à Kananga. Est-ce que dans Francis Kalunga, vous partagez la même opinion que dans Pierre Ntoukani? Est-ce que chez vous à Kananga, vous avez du courant?
Désolé, vraiment, j'ai... tu sais, Claude, ça me fait mal. Ça fait mal parce que les US castaïens ou les castaïens en général qui entendent parler du courant d'Inga, projet Inga 3 avec l'intention d'exporter le courant, je vous dis que les câbles et même les pylônes de Inga à son stade actuel traversent la ville de Kananga. Je ne parle pas la province, mais traverse la ville de Kananga, d'où je suis en train de parler. Mais je vous dis qu'on n'a pas le courant. Un homme politique est passé pendant un peu de campagne pour les législatives nationales. Et il estimait qu'à un moment, nous allons nous battre pour qu'on électrifie la vie de Kananga. Faute de quoi, on demande au gouvernement congolais, issu des élections, de pouvoir transporter ces pylônes et ce courant, que ça ne puisse pas voler l'espace de ce Kassaïen, que ça ne vole pas le sol du Kassaïen, parce que ça ne sert absolument à rien. Chez nous, il y a un adage, je le traduis directement ou littéralement, on dit que celui qui va à la quête du gibier, qui attrape son gibier, doit être servi d'un morceau le plus charné, de façon à l'encourager pour pouvoir aller à la quête de demain ou après-demain. Mais comment voulez-vous qu'on donne du courant aux pays étrangers, aux pays amis bien sûr, pendant qu'au pays, nous-mêmes, nous n'avons pas ce courant? J'entends Don Pierre dire que même là, sur place, au site, il n'y a pas du courant dans certains villages environnants, le lieu du barrage. À Kananga, par exemple, le chef de l'État était ici au mois d'août de l'année dernière. Il a dit, en tout cas, dès la fin de cette année ou le début de l'année prochaine, la centrale hydroélectrique de Kakende, que la société sud-africaine Plaxion Power a pu échouer, va reprendre ses activités. Je suis en train de voir que nous tendons vers la fin du premier semestre de l'année 2008. On n'a pas du courant à Kananga. Et je regrette vraiment. Je suis en train de dire que, encore une fois, ce sont les autres qui réfléchissent tous leurs intérêts sur le Congo et non les Congolais qui pensent avoir pourquoi les autres pensent à exploiter le courant qui vient de chez nous.
Merci.
C'est parce que nous-mêmes, nous sommes pensés quelque part en train de prendre nos responsabilités.
Luc Ojembala, placé un mot.
Oui, en fait, pensez à toucher quelque chose. Ce sont les autres qui réfléchissent sur la question d'Inga. Inga est aujourd'hui au centre des enjeux internationaux. Et aussi de la part du gouvernement congolais, on ne sent pas cette visibilité. Ce sont les autres qui viennent décider. Moi, je suis étonné qu'il y ait une conférence sur Inga à Londres et qu'il n'y ait pas de représentants du Congo. Mais pourquoi nous devons...
Le ministre nous a dit que la RDC était représentée par un diplomate.
Oui, mais un diplomate de seconde zone. Hein, ça fait section des
alliés.
Moi, j'aurais voulu quand même que le ministre lui-même soit là. Et une grande délégation du Congo, parce que l'affaire concerne le Congo. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, en fait, la RDC doit prendre le leadership dans ce projet Inga. On doit voir comment on peut... permettre à Inga d'électrifier d'abord les provinces du Congo, en va de voir la dimension internationale. Moi, je crois que c'est important que le gouvernement ait un agenda sur Inga.
Mais il y a quand même des rentrées en devises, c'est peut-être des milliards de dollars.
Il y a des milliards de dollars qui sont gérés également. Il y a des milliards de dollars.
Qui exportent ce courant.
Exactement, il y a des milliards de dollars, justement, qui sont gérés de manière un peu occulte. Et c'est pourquoi le Parlement est en train de mener des actions de lobbying pour savoir comment la gestion, comment se fait justement la gestion de ces barrages hydroélectriques d'Inga.
Merci beaucoup, merci à nos confrères pour leur participation à cette tribune de la presse. Kevin Kouté était à la réalisation et Jean-Noël Mokondo à la mise en onde. C'était la dernière émission de nos trois confrères qui ont commenté avec nous l'actualité pendant 4 semaines. Nous les en remercions sincèrement. Au revoir et bon week-end à tous.